premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4 heures du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un top pour l'armée si vous arrêtez pas. Allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et en diffusion un peu partout en France sur pas mal de radios locales qui nous rediffusent. Tout d'abord, il y a du monde autour de la table. Tout d'abord, il y a Louise.
Salut.
Il y a Rose.
Salut.
Il y a Jade.
Salut.
Il y a Julie.
Salut.
Et il y a Jade.
Hello.
Et Inès.
Salut.
Qui sont au bocal. Et Serge qui vous salue. Et on aura le droit à un petit coup de fil de Sylvia tout à l'heure pour parler de la situation. Bon, on va décrire le programme de l'émission un peu plus tard. Mais tout d'abord, on va présenter c'est quoi L'Envolée. L'Envolée, c'est une émission de radio et un journal qui donne la parole aux prisonniers et à leurs proches pour relayer les luttes qui se passent à l'intérieur de la détention. Voilà. Donc... Ce qui se passe généralement, même si là ça ne va pas être le cas, c'est qu'on commence l'émission avec des lettres. Pour nous écrire, c'est donc fpp-l'envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez nous appeler sur le bigot qui est le 07 53 10 31 95 ou en direct au 01 40 05 06 10. Vous pouvez aussi nous appeler, nous contacter par tous les réseaux sociaux et aussi Julie par mail contact@l'envolée.net. Aujourd'hui, une très grosse émission avec tout d'abord, enfin voilà, on va commencer l'émission pour parler de la situation en Kanaky, où c'est très très violent la répression qui est en train de se mettre en place là-bas et à longue distance et avec pas mal de difficultés de réussir à avoir de la parole directe de ce qui se passe avec la répression qui commence à avoir lieu. Et enfin, dans un second temps, on parlera de cette grande punition collective qui sont en train d'appliquer les syndicats de Mâton et les Mâtons qui sont en train de bloquer toutes les tôles à la suite de la mort de d'entre eux. Voilà une actualité super chargée et assez intense. Tout d'abord, on commence avec toi, Julie. Bah, merci beaucoup d'être avec nous parce que on sait que c'est bien rempli en ce moment.
Merci à vous de consacrer un temps sur la Kanaky.
Bah, en vrai, c'est vraiment normal parce que voilà, on a quand même pour habitude de parler de toutes les violences d'État, et donc c'est normal là de. C'est aussi ce qu'on s'est dit, on va peut-être aussi le préciser à l'antenne pour commencer, c'est que nous, on est quand même, on connaît assez, enfin, moi personnellement, et puis nous, les autres animateurs de l'Envolée de manière générale, on connaît très très mal la situation en Kanaky, et donc toi, tu fais partie du collectif
Solidarité Kanaky, c'est ça.
Voilà, et donc tu as été sur place il n'y a pas si longtemps que ça. Était en contact assez régulier avec un certain nombre de personnes qui luttent ou qui se défendent face à la répression d'État. Juste pour préciser, c'est que voilà, on veut vraiment éviter de dire un certain nombre de conneries et que je pense qu'il faut, dans une situation comme celle-là, il faut vraiment faire assez gaffe, on prendra toute la prudence mettre un peu de la prudence dans ce qu'on va dire et tout ça, et on va faire attention que nous les idées ne dépassent pas notre parole et tout, même si on est choqué par ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà. Peut-être si tu peux tout d'abord, parce qu'en fait, de fait, c'est quand même une situation qu'on connaît mal, ce qui se passe là-bas et tout ça, et donc nous rappeler un peu la situation politique globale qui amène à ce qui est en train de se passer en ce moment, quoi.
Alors déjà, juste pour me présenter, le collectif Solidarité Kanaky, nous, on existe depuis 2007. On regroupe différentes organisations, politiques, syndicales, associatives, et on se fait un peu le relais de la lutte du peuple kanak pour son autodétermination en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est le nom colonial du territoire. Et du coup, depuis, on se mobilise et sur une base internationaliste et anticoloniale. Et donc, à ce titre, depuis 2007, on a eu différents moments forts en fait, de mobilisation, notamment pendant la période référendaire, des trois consultations de référendum. Alors, pour rappeler, en fait, la Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est un territoire qui est reconnu depuis fin 1986 comme un territoire non autonome et dans la liste des pays à décoloniser, selon la résolution 1514 des Nations Unies. Donc un territoire non autonome, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est distinct et séparé de la France et qui est sous l'administration, sous puissance administrante de la France. Mais la France n'est pas souveraine sur le territoire. Donc elle garde des compétences, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les compétences régaliennes. Alors depuis en fait 1986, il y a eu différents moments forts de mobilisation dans la lutte du peuple kanak pour son autodétermination. Aujourd'hui, les mobilisations qui ont traversé la Kanaky depuis des mois, c'est pas juste depuis une semaine, sont en lien avec à la fois la manière dont la dernière consultation du référendum s'est passée, mais aussi par rapport à une volonté de l'État français d'imposer une sortie de l'accord de Nouméa de 98 en disant que ben voilà, l'expression l'expression de la population en Kanaky, c'est de rester dans la France, et du coup ben on sort de l'accord de Nouméa, et y a une volonté d'imposer aujourd'hui une réforme constitutionnelle sur l'ouverture du gel électoral. C'est-à-dire qu'en fait, ce point sur la question du corps électoral, c'est un point hyper sensible en Kanaky, et aussi pour le peuple kanak, pour son autodétermination, parce que dès 83, à Nainville-les-Roches, les représentants kanak ont accepté l'ouverture déjà du corps électoral, c'est-à-dire pour s'autodéterminer, avec l'ouverture du corps électoral aux victimes de l'histoire, c'est-à-dire les descendants des bagnards. Donc c'est quand même unique dans les processus de décolonisation qu'un peuple colonisé accepte aussi d'autres populations. Donc c'était déjà un pas. Il y a eu ensuite les accords Matignon-Oudinot, où il y a eu encore une ouverture de ce corps électoral. Et par la suite, en 1998, il y a eu l'accord de Nouméa, où il y a eu une autre étape d'ouverture. Donc, en fait, il y a déjà le peuple kanak qui est minorisé sur sa propre terre. Il y a une volonté vraiment de colonie, de peuplement depuis le début. Hein. On se rappelle de la lettre de Pierre Messmer en 1972 qui explique clairement la volonté de favoriser l'installation de métropolitains pour avoir une majorité démographique, quoi. Et donc, par la suite, comme le territoire s'est fait reconnaître comme territoire non autonome, au regard du droit international, en fait, c'est totalement illégal de favoriser comme ça une colonie de peuplement. Donc, là-dessus... On le sait, hein, la France depuis longtemps viole à plusieurs niveaux le droit international qui normalement devrait être respecté sur ce territoire, quoi. Et là, on se retrouve donc du coup à l'accord de Nouméa. Ça a été un accord d'abord de décolonisation pour entrer dans un processus, dans une trajectoire où le peuple kanak accède. La population de Nouvelle-Calédonie et le peuple kanak accèdent à sa pleine souveraineté. Et donc, dans les accords, il y a eu arraché hein, par les indépendantistes à ce moment-là le gel du corps électoral. Parce qu'en fait, les années passent et en fait, ils sont minorisés de plus en plus. En fait,
il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à la métropole.
Il n'y a pas plus en plus de personnes, mais ouvrir petit à petit, ça les minorise dans tous les cas. Et il y a des arrivées aussi de vagues de métropolitains il y a des avantages hein, attractifs sur place en termes de postes, en termes de logement, en termes de... Voilà, ils arrivent, c'est souvent des cadres hein, qui ont des postes à responsabilité. Une discrimination qui est quand même très importante au niveau de la population en Nouvelle-Calédonie. Hein. Les Kanaks vivent une discrimination à l'accès à l'emploi, mais aussi à l'emploi local, mais aussi à des postes à responsabilité. Il y a une précarité qui est énorme. Je le dis parce qu'en fait, dans l'accord de Nouméa, il y avait aussi... c'était prévu dans l'accord de Nouméa un rééquilibrage sur ces inégalités dans le processus de décolonisation. Et c'est-à-dire... qu'il y ait moins ces inégalités au niveau de l'emploi local, etc. Aujourd'hui, on est toujours au même point. Je crois que un médecin kanak, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Le nombre de directeurs d'école, il n'y en a pas beaucoup non plus. Enfin, voilà, on est dans une situation de discrimination qui est quand même énorme. Et ça, c'est une réalité que vit la jeunesse de plein fouet, quoi. Et donc, ces compétences-là...
Il y a une pauvreté hyper forte des Kanaks et des inégalités
c'est ça.
Immenses. Enfin, je sais pas,
déjà, le niveau de vie, il est beaucoup plus important qu'ici. Et le SMIC est moins important. La plupart des emplois kanaks sont plus dans le secteur privé. Vous pouvez imaginer en fait les conséquences en fait sur la population et la jeunesse kanak, en plus d'une situation de racisme. Voilà, juste pour pas m'étendre là-dessus sur la situation actuelle. Donc après, il y a eu le premier référendum de consultation en 2018, qui a eu un résultat. Non à la pleine souveraineté. Il y avait pas mal de Kanaks qui n'étaient toujours pas inscrits sur les listes référendaires. Donc il y a eu tout un travail là-dessus. Il y a eu une grosse campagne aussi pour le deuxième référendum. Et au moment du deuxième référendum, en 2020, il y a eu une très forte montée des résultats pour... la pleine souveraineté. Et donc, ça s'est joué à 9000 voix près seulement. Le troisième référendum que tout le monde attendait en 2022 a été fixé par l'État français en décembre 2021. Donc c'était en plein confinement, en plein Covid, qui a touché à ce moment-là la Nouvelle-Calédonie de plein fouet. Et donc il y a eu l'ensemble des courants indépendantistes qui ont demandé le report de ce référendum. Nous, on s'est mobilisés aussi ici. Hein. Même le Sénat Koutoumi a demandé le report. Enfin, voilà, l'ensemble des mouvances indépendantistes et l'ensemble des représentations du peuple kanak ont été pour ce report-là. Et de façon unilatérale, l'État français a imposé la date du 12 décembre 2021 comme date du référendum. Et les indépendantistes ont demandé ce report aussi par le respect aussi des coutumes hein, sur place au moment du deuil. Ils ne pouvaient pas faire campagne non plus. Voilà. Et donc, ils n'ont pas participé à la consultation. Donc,
après, il y a eu un boycott.
En fait, eux, ils disent que ce n'est pas un boycott, mais c'est une non-participation. Okay. Okay, et donc, du coup, voilà. Donc, en termes de résultats, et sachant aussi que ça s'est passé avec des escadrons militaires qui ont été envoyés, etc. Juste après, il y a eu les élections présidentielles et il y a eu la nomination aussi de Sonia Backès juste après en tant que secrétaire d'État. Sonia Backès, elle est à la tête de la province sud en Nouvelle-Calédonie. Elle représente aussi, elle est aussi à la tête de la droite loyaliste locale, qui est non indépendantiste. Et elle a été nommée secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur et de la Citoyenneté. Secrétaire d'État à la Citoyenneté au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, juste après les élections présidentielles. Donc c'était déjà une belle provocation. Et juste après, donc du coup, tout le temps, depuis en fait le troisième référendum, les indépendantistes... ne reconnaissent pas cette dernière consultation. Ils disent que pour cette dernière consultation, ils ne sont pas exprimés. Il y a une volonté de voir au niveau international, même au niveau de l'ONU, de voir comment remettre en question les conditions de ce référendum. Par contre, depuis, l'État français, Macron, et avec Darmanin qui était aussi chargé du dossier, mettent la pression pour dire, ben voilà, maintenant on sort de l'accord de Nouméa et on va dégeler le corps électoral. On va d'abord repousser les élections provinciales. Il faut savoir qu'il y a un congrès local en Nouvelle-Calédonie et qui à la tête de ce congrès, c'est un Kanak, un indépendantiste. Et il y a une volonté de reprendre en fait la tête de ce congrès local. Et donc, comment le reprendre ? Eh ben, on va dégeler le corps électoral, on va d'abord repousser les élections provinciales, puis entre-temps, on dégèle le corps électoral, et comme ça, on change la bascule en termes de pouvoir et de paysage politique. Ça représente à peu près l'ouverture du corps électoral tel qu'est présenté dans le projet de loi, représente l'ouverture en gros de 25 000 nouveaux votants et qui seraient arrivés il y a 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc ça représente une ouverture énorme et une minorisation des voix kanak qui seraient complètement noyées. Et en fait, c'est balayé d'un revers de main 30 ans d'accord de Nouméa, 40 ans de paix, et c'est renoué avec des politiques de coloniales qu'on connaît. Et donc sur ce projet de loi, il y a eu une mobilisation qui s'est construite au fil des mois, parce que les indépendantistes ont bien compris que le dialogue, il était plus accepté par l'État, alors que les accords de Nouméa, ça a été sur un dialogue, du consensus, etc. Et là, c'est unilatéral. Et donc c'est hyper violent, c'est hyper. Et donc il y a une mobilisation qui se construit depuis novembre. Petit à petit, il y a eu une cellule de coordination des actions de terrain qui a été créée avec l'ensemble des courants indépendantistes.
Alors c'est ce que, pour si les gens ils entendent un peu dans les médias, c'est ce qui est appelé la CCAT.
Exactement.
Et voilà. Et donc c'est bien de rappeler ce qu'est cette CCAT pour parce que c'est quand même on est sur un bail de diffamation, soyons clairs et tout ça, mais donc en tout cas ils sont en train d'utiliser l'État, Darmanin et tout ça, une définition qui va, enfin ils sont en train de criminaliser soi-disant la CCAT, alors que ce qu'elle a principalement
la CCAT en fait c'est simplement ça a été une coordination qui s'est créée avec l'ensemble des courants indépendantistes qui ont, sur le terrain, fait de la sensibilisation, de l'information auprès des populations dans les différentes villes. Il y a eu des tournées, il y a eu pour expliquer c'est quoi le dégel du corps électoral, c'est quoi les conséquences à venir et qu'il faut se mobiliser parce qu'en face on a un État qui a un rouleau compresseur qui ne veut pas reculer et qui veut imposer en fait coûte que coûte sa volonté de passer en force.
Et soyons bien précis, c'est que cette CCAT parmi les modalités d'action et de lutte, n'a jamais utilisé la question de la violence et a toujours refusé la violence et tout ça, et a fait régulièrement des appels au calme et tout ça. Et ils sont en train de faire tenir ce genre de discours en fait à la CCAT.
Ils sont en train de porter des accusations en tout cas. Sachant qu'ils le savent très bien que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est de l'information, c'est des manifestations pacifiques. On est arrivé jusqu'au... Petit à petit, ça a été crescendo. On est arrivé jusqu'au 21 février, il y a quand même eu de la répression. Il y a eu des personnes qui ont été arrêtées à ce moment-là, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que de février jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à avant le vote, il y a eu des mobilisations qui ont pris de l'ampleur jusqu'à un point culminant qui a été le 13 avril dernier, où on était à peu près à 60 000 personnes en manifestation, ce qui est carrément historique. En tout cas, mais même certains parlent de 80 000 sur l'ensemble du territoire en comptant les îles Loyauté. Et donc, en ramenant à la population au Kanak, qui est en gros à 120 000 personnes, 80 000 personnes, c'est juste énorme. Et donc, ce ne sont pas que des Kanaks qui se sont mobilisés. Il y a aussi d'autres communautés. C'était très, très divers, très... Donc, le discours aujourd'hui aussi, ce n'est pas que des accusations, mais le discours porté sur le fait qu'il y ait un discours raciste, qu'il y ait une volonté de raciste vis-à-vis des blancs, etc. C'est complètement hors conception de tout ce qu'a construit aussi le mouvement indépendantiste, la mouvance indépendantiste depuis l'histoire de la mobilisation du peuple kanak dans tous les cas. Et Et voilà, les mobilisations, les images le montrent très bien. Bien sûr qu'il y a majoritairement des Kanaks, mais il y a aussi d'autres communautés et qui soutiennent la communauté océanienne qui sont présentes, mais aussi des personnes arrivées métropolitaines et qui soutiennent aujourd'hui le mouvement indépendantiste. Alors là, ce qui se passe... J'enchaîne, mais...
Vas-y.
Ce qui se passe au niveau de là, de plusieurs jours, nous, on s'est mobilisés, hein, y a eu des interpellations. Il y a eu des interpellations répétées au niveau des parlementaires, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que faut modifier la Constitution, parce que comme ça a été constitutionnalisé, donc ça passe d'abord au Sénat, après ça passe à l'Assemblée nationale, et après, normalement, il y a convocation du Congrès de Versailles. Et donc, le premier passage au Sénat, donc il y a le report des élections provinciales, il est déjà fait. Ça a été aussi unilatéral. C'est déjà passé. Là, on est sur la question du dégel du corps électoral aujourd'hui. Le passage du Sénat, c'est passé. Ça a été voté majorité. Faut savoir que l'ensemble des partis de gauche,
j'apprends avec toi là ce truc de report des élections et tout ça, mais c'est quand même un truc. Délirant. Enfin, je veux dire,
c'est délirant, sachant qu'au moment du troisième référendum, Le Cornu disait les élections
Donc,
se passent.
Le ministre des Outre-mer de l'époque.
Voilà, disait les élections se passent toujours à l'heure dans une démocratie.
Ouais.
Et voilà, donc la démocratie, c'est comme il veut. Et aujourd'hui, il reporte comme il veut pour arranger au niveau des chiffres et avoir quand même la possibilité pour l'État français d'avoir, dans tous les cas. La droite locale loyaliste, qui est son bras local de l'État sur place, qui reprenne le pouvoir sur place. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, le passage à l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, s'est passé. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'était mardi 14. Et donc, les mobilisations ont passé plusieurs phases, hein, de sensibilisation. Après, c'était des phases de manifestation, toujours pacifiques. Mais il y a eu des déclarations quand même aussi du Haussaire qui ont été assez provocantes.
Le Haussaire, c'est
le Haussaria sur place qui remplace un peu ça remplace une
sorte
préfecture.
De préfet, ouais.
Le Haussaire sur place a eu des déclarations quand même assez dures vis-à-vis de la jeunesse. Hein. Il y a eu certaines provocations et voilà, la situation elle est compliquée. La jeunesse, elle est tout à fait consciente aussi des conséquences en fait de ce dégel-là. Déjà, ce qu'elle vit est déjà terrible en Nouvelle-Calédonie. Ce sera encore pire en fait. Ils seront encore plus marginalisés. Donc voilà. Bon, aussi toute la population kanak, mais aussi la jeunesse en particulier, quoi. Juste ce que je voulais dire. Donc il y a eu le vote à l'Assemblée mardi dernier et bon, l'ensemble des courants de gauche se sont opposés, hein, mais comme il n'y a pas la majorité, voilà. Les députés polynésiens et de Guyane ont essayé aussi de comme les autres députés d'ailleurs, hein, pas seulement, mais ont aussi défendu complètement le fait, l'opposition en fait au dégel de ce corps électoral. Et alerter. Les alertes, elles sont faites depuis de nombreux mois. Nous-mêmes, au collectif Solidarité Kanaky, nous nous sommes adressés à l'ensemble des parlementaires par courrier pour alerter du danger, en fait, du danger d'une situation explosive là, et qu'en fait, c'est pour la stabilité tout entière du pays, quoi. Et nous, au collectif, en tout cas Solidarité Kanaky. Là, à la veille donc du vote, il y a eu des grèves, il y a eu des mobilisations et il y a commencé à y avoir aussi des échauffourées et ça a commencé à être vraiment tendu à Nouméa, surtout de la part de la jeunesse. Il y a eu des appels au calme de la part de différents dirigeants. Il y a eu des appels au calme aussi de la part de la CCAT. Et en fait, à un moment donné, quand on méprise le peuple colonisé à ce point, on n'est pas étonné, mais nous, au collectif Solidarité Kanaky, on porte responsable quand même, on porte responsable l'État de la situation actuelle et surtout les parlementaires qui ont laissé passer le passage de cette loi. Bon, après, c'est pas fini, il y a encore le congrès de Versailles, mais ça n'empêche, en fait, c'est un peu la goutte d'eau sur place et à un moment donné... Malgré les appels au calme, c'est compliqué de il y a une jeunesse qui est méprisée, qui est stigmatisée et voilà quoi.
C'est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, mercredi, il y avait un meeting qui était organisé et tout ça et il y a eu ces nombreux appels au calme parce que enfin moi je sais pas la manière dont je l'ai ressenti c'est que tout le monde avait quand même aussi souvenir de la violence qu'il y avait eu auparavant et de la guerre civile qu'il y a eu jusqu'aux accords d'avant et tout quoi et donc il y a personne qui veut souffler sur les braises et c'est quand même vraiment à signaler et les seules personnes qui soufflent sur les braises en fait c'est l'État et l'État le fait à travers d'une part le Parlement qui vote ce truc
sans prendre en compte du coup le rappel du droit international parce que le dégel lui-même cette loi là en tant que telle remet en question complètement le droit international quoi. Ça c'est un rappel qu'on fait même aux parlementaires qui ne sont pas du tout au courant qui ne prennent pas la conscience du
Il y a ce truc là et donc il y a le Parlement et tout ça et puis il y a l'État et la réaction la répression qui va y avoir à tout ça
qui est déjà énorme, et qui a été aussi
en tout cas c'était ce qui était rappelé pendant ce meeting aussi c'est qu'en fait les premières personnes à avoir tiré au flashball dans la tête des jeunes et tout ça c'était des policiers français ce genre de choses il rajoute de la tension et ne font que souffler sur des braises qui sont extrêmement flippantes. Est-ce que tu peux un peu nous décrire la répression que là il y a actuellement quoi.
La Nouméa, les habitants de Nouméa ont vécu des journées non-stop de peur, de beaucoup, beaucoup dans la sidération, terrorisé aussi par la répression de l'État, mais aussi avec le renfort de milices. Il faut savoir que il y a eu des envois de renforts militaires et bon, il y a eu le GIGN dès les premiers jours, GIGN, le RAID, CRS-8 qui ont été mobilisés. Il y a eu beaucoup de blessés. Aujourd'hui, on ne sait pas le nombre de blessés. Il y a eu aussi, là on a quand même plusieurs personnes qui ont perdu la vie, qui ont été assassinées par balles. Les tirs de flashball, bien sûr, il y en a eu beaucoup dès le premier jour. Là, on est à des tirs de tirs par balle, quoi, réels, quoi. C'est énorme. Et y a 1700 militaires déjà qui ont été envoyés sur place. Et il y en a 1000 qui sont en chemin là. Il y a l'état d'urgence qui a été décrété. L'aéroport, les vols ne sont plus assurés, donc personne ne peut rentrer en Kanaky. Le port, c'est pareil, donc là pour le moment, c'est bouclé, le territoire il est bouclé. Il y a eu beaucoup d'affrontements jusqu'à maintenant, de la part beaucoup d'attaques aussi de. C'est pas quand on voit le discours du Hausser, je pense que c'était il y a 2 jours, quand il a déclaré que vis-à-vis des morts qu'il y a pu avoir, qu'il y a eu des gens qui se sont défendus, qui ont, qui défendaient leurs habitations, etc. Les personnes kanak qui sont décédées étaient pour certains dans une zone industrielle, hein, c'était pas près d'habitation. Donc là, il revient dessus. Apparemment, il y a eu des personnes arrêtées, une personne arrêtée. En fait, il y a carrément des personnes qui circulent en pick-up, en 4x4, avec des armes. Et c'est une chasse à l'homme, en fait, qu'on voit aujourd'hui. Et c'est hyper, hyper inquiétant. Enfin, la situation, elle est catastrophique. Les gens ont très peur. Et il y a eu, là, même il y a quelques heures, moi, j'ai reçu des choses qui ont été postées sur les réseaux. On n'arrive pas à tout suivre. Mais des choses dramatiques, quoi. Enfin, des gens qui courent avec derrière eux des gens armés, quoi. Armée, mais de la droite loyaliste, raciste, etc. quoi. Et la ville de Nouméa, pour vous dire, c'est une ville qui est très ségrégée, en fait. On a le sud qui est vraiment population européenne plutôt riche, et puis après, au nord, plutôt des Kanak et océaniennes, et des quartiers populaires. Et qui prennent de plein fouet aujourd'hui la répression. Il y a des barrages qui sont maintenus par les Kanaks pour se protéger en fait des attaques, hein, parce que les attaques elles sont réelles, quoi. Les vidéos, en plus, ils se cachent pas du tout, hein. Ils sont pas cagoulés. Enfin voilà, hein, c'est. Et puis même ils en sont fiers, hein, sur certains postes. Enfin c'est vraiment, ça fait vraiment flipper, quoi.
Puis ils le revendiquent, puis ils sont invités dans les médias pour pouvoir le dire et tout ça, et ils le disent sans aucun problème, et il n'y a personne qui dit absolument rien.
C'est impressionnant, en fait, le niveau de violence, ouais, qu'il y a juste en l'espace de 2 jours, quoi.
Et donc il y a ça, il y a eu des nombreux blessés aussi, parce que donc on parle beaucoup des morts, mais aussi il y a de nombreux blessés dont pour lesquels c'est assez difficile, enfin c'est très difficile de se faire soigner, et pour lesquels aussi on sait même pas combien de personnes ni quoi.
C'est très compliqué là jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup beaucoup d'interpellations. Je pense qu'on a dépassé les 200 interpellations, hein. Hier à midi, c'était à 130, mais il y a eu une déclaration de 80 en plus. Enfin, bon, voilà, c'est énorme. Et du coup,
et Dupond-Moretti a sorti une circulaire, disant qu'il fallait réprimer très très sévèrement. Et le procureur commence à lancer des enquêtes sur ce qu'il appelle soi-disant les commanditaires. Ce qui n'existe pas juridiquement, quoi. Mais
il y a eu des personnes membres de la CCAT qui ont été qui sont aujourd'hui assignés à résidence. Nous, au niveau du collectif Solidarité Kanaki, on dénonce cette situation-là, on dénonce ces accusations-là, et on s'inquiète de la tournure de des jours à venir. Et puis on s'inquiète aussi pour tous ceux qui sont interpellés et qui sont prisonniers aujourd'hui.
Alors, juste avant de passer à ce qui se passe à Caen Est, donc qui est la prison, juste en fait quand même pour faire ça me fait chier de faire un parallèle avec ce genre de truc, parce que c'est un niveau de répression et d'intensité qu'on connaît absolument pas du tout en métropole et tout ça. Mais on arrive quand même sur un moment qui commence vraiment à interroger sur les espaces de liberté politique qu'on a. Je lisais encore récemment dans Mediapart qu'il y a une des assos Asti qui a juste appelé à manifester contre les violences policières, qui s'est fait sucrer toutes ses subventions et tout ça. Enfin, en fait, il y a un moment, la CCAT qui a juste fait un travail de terrain de conscientisation politique, en fait, de dire qu'il y a un souci avec ça et qu'il faut être alerte à cette situation et venir manifester pacifiquement pour des trucs et tout ça. On en fait devenir des criminels, tout. De l'autre côté, ça interroge quand même très sérieusement sur quels sont les espaces de liberté politique qui nous restent, parce que quand c'est à des échelles, je veux pas du tout comparer ce qui se passe en métropole, parce que le degré d'intensité n'a rien à voir, mais mais ils attaquent partout, voilà, et sur simplement des libertés publiques, politiques, qui sont quand même, voilà, on est tout le temps, et enfin à cette antenne, on n'arrête pas de parler du fascisme en cours et de la fascisation du monde. Mais là, ce que tu décris sur ce qui se passe en Kanaky, on arrive à des degrés délirants, quoi. Enfin, je veux dire, le fait qu'on interdise des élections, enfin qu'on les reporte, voilà, que les gens qui font qui juste en fait font de la propagande politique en fait, mais dans le bon sens du terme, d'alerter sur une situation et tout ça, qui font des manifestations qui sont pacifiques et tout ça, on va commencer à les faire passer pour des commanditaires d'émeutes. Enfin, il y a un moment, c'est extrêmement inquiétant. Oui. Voilà, et en fait enfin voilà.
Nous on appelle à se mobiliser largement, ouais, hein, sur là-dessus. Hein. On a eu un rassemblement hier soir qui avait été appelé par différentes personnes et des députés étaient présents. Hein. Le député Steve Chouya était présent. Beaucoup d'associations, de partis. Là, ça touche tout le monde en fait, quoi.
Enfin, nous, c'est souvent ce qu'on dit aussi sur la tôle, c'est que, enfin, tu vois, à chaque fois, ça s'étend. Voilà, et on sait très bien, c'est pas possible de laisser passer ce genre de choses. Et il y a ça sur cet aspect politique, et il y a aussi de la solidarité internationale qui doit avoir lieu, et tout ça, c'est pas trop dans nos bails, nous, à l'envolée, parce que voilà, on parle pas trop de ce genre de choses, mais là, l'État français nous l'impose, quoi. Enfin, voilà. Et donc, pour revenir à ce dont on commençait à arriver, c'est la prison de Caen Est, où là il commence à y avoir plusieurs personnes qui vont voilà.
C'est très chaud, hein.
Ouais, voilà.
Il y a eu une mutinerie répétée. Au camp Est. Il faut savoir que le camp Est, c'est l'ancien bagne. C'est les murs de l'ancien bagne. Au sein du camp Est, il y a à la fois la maison d'arrêt, les quartiers de détention, il y a aussi les quartiers mineurs. Voilà, tout est concentré au même endroit, dans des conditions dramatiques. On a un taux d'occupation, de suroccupation, qui atteint les 150%, plus de 150% parfois. C'est énorme. Il y a eu l'OIP qui avait fait un rapport il y a quelques années pour dénoncer en fait les conditions au camp Est. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas du tout été appliquées. Ils ont changé au niveau des sanitaires quelques trucs, mais la réalité au camp Est des prisonniers, elle est terrible. Et au quartier de détention, en fait, les prisonniers sont dans des containers maritimes. Voilà, en tôle, quoi. C'est vraiment hyper dur. La population, les prisonniers, il y a 90% de prisonniers qui sont kanaks. Après, le reste, ce sont des océaniens ou walisiens, foutonnés. Enfin, voilà, c'est pas du tout... on voit très bien la politique qui est menée, la politique coloniale qui est menée en Nouvelle-Calédonie. Elle est tout à fait claire quand on voit la situation de la prison et des condamnations aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes kanaks qui se font condamner à des peines énormes pour pas grand-chose, en fait. Et l'enfermement, il est énorme. Il y a une volonté d'enfermer aussi la jeunesse. Il y a eu une nouvelle prison qui a été construite au nord, à Koné, prétexte de insertion professionnelle, etc. Donc en gros, les profils les plus calmes, entre guillemets, selon le service pénitentiaire, ont été transférés à Koné. Mais en fait, nous, au collectif Solidarité Kanaky, on l'a déjà écrit, on a déjà alerté dessus. C'est aussi une ouverture à enfermer encore plus la jeunesse kanak. Et il y a une volonté aussi de construction d'un nouveau énorme centre pénitentiaire qui remplacerait le camp Est à Nouméa. Mais un truc vraiment énorme. Il y a eu des dénonciations en fait aussi de ce projet-là. Et la première pierre a été posé, inauguré en janvier dernier, quoi, en décembre dernier. Donc voilà, en pleine situation de pression sur le dégel du corps électoral, etc. Enfin voilà, c'est aussi ça la réalité.
Mais
et donc là, aujourd'hui, avec toutes les interpellations qu'il y a eu, nous, on est hyper inquiets parce que même au niveau juridique, la défense sur place va être débordée et on ne sait pas du tout dans quelles conditions se passent les gardes à vue, la détention. Voilà, il y a eu une déclaration qui allait avoir 100 prisonniers du camp S qui allaient être transférés sur Koné, donc à l'autre prison plus au nord. Et donc c'est une ouverture pour ouais, emprisonner encore, enfin voilà, ouvrir des places sur Nouméa, quoi.
Bah là, de toute façon, vu la manière dont ils ont lancé l'offensive médiatique, l'état d'urgence et tout, on peut malheureusement craindre vraiment une voilà. Et en plus, j'imagine que, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais comme tu le disais, il y a pas beaucoup de médecins. On leur empêche d'avoir les postes et tout ça. J'imagine que c'est difficile de trouver aussi des avocats qui seront s'il y a beaucoup de personnes qui se font arrêter et tout quoi. Mais,
c'est assez compliqué, oui. Et en tout cas, la situation déjà là aujourd'hui de couvre-feu avec l'état d'urgence et tout, la situation dans les rues, hein, et beaucoup de gens qui sortent pas, des pénuries alimentaires là qui commencent, ça commence à être vraiment inquiétant. Et du coup, même pour s'organiser en termes de défense, c'est quand même compliqué. Voilà, nous on est hyper inquiets, on alerte, et la mobilisation qu'on appelle aujourd'hui, c'est aussi pour tout ça. Il va, je le dis là à la radio, on l'a pas encore, il y a pas encore eu des choses mises en place, mais il va y avoir des appels, hein, de soutien anti-répression, notamment de soutien financier, hein, parce que ça va être énorme en fait. Et là, vu tous les escadrons qui arrivent, on est hyper inquiet des jours à venir, on est hyper inquiet de la situation. Bah, apparemment, ça s'est un peu calmé, les derniers jours, c'est un peu baissé au niveau des tensions, mais on n'est pas à l'abri que ça reprenne, c'est hyper fragile, quoi.
Et peut-être l'une des dernières grosses inquiétudes, enfin parmi, on va pas faire de voilà, c'est en tout cas pour l'instant le port et l'aéroport sont inaccessibles et tout ça. Ils ont déjà commencé à couper TikTok, ouais. Voilà, et donc il y a aussi une grosse crainte d'isoler complètement. Le temps de réprimer et tout ça. Et donc ça fait aussi partie des énormes craintes qu'il y a. Donc il y a eu un recours qui a été fait contre la coupure de TikTok et tout, mais voilà, c'est en cours et tout, et je pense, enfin voilà, c'est vraiment très très important qu'il y ait le plus de solidarité qui s'exprime et de soutien autant qu'on peut le faire nous,
au niveau de Solidarité Kanaky, on est quelques organisations, on n'est pas hyper nombreux. Mais on va appeler dans les jours qui viennent à une réunion très large, individus et organisations, pour arriver à construire une solidarité collective plus large que le collectif Solidarité Kanaky, quoi.
Ouais, une solidarité internationale pour les peuples, voilà.
Voilà, et puis on rappelle vraiment le droit à l'autodétermination et la violation du droit international. La Kanaky, c'est pas la France, quoi. Ça n'a jamais été la France.
Et normalement, il devrait y avoir une position neutre qui a été complètement...
Voilà, alors il y a eu un appel de la représentante du FLNKS...
Un des syndicats Kanak.
Ouais, le mouvement de libération, Front de libération nationale Kanak et socialiste, qui regroupe différents partis politiques, hein, qui d'ailleurs lors de son dernier congrès a élargi en fait les différents partis qui ont du FLN, quoi. Et donc là, il y a eu un appel hein, à un déplacement d'une mission des Nations Unies sur place, et que ce soit pas la France qui gère en fait la suite, parce que voilà, on est dans un processus de décolonisation qui n'est toujours pas terminé malgré ce que dit Macron et la volonté de Darmanin. Et voilà, et la lutte, elle continue. Et en tout cas, on vous fera part des prochains rendez-vous, de mobilisation, mais aussi pour l'antirépression. Voilà.
C'est essentiel. Merci vraiment.
Et je voulais juste dire, comme on est à Radio FPP et qu'il y a une radio aussi indépendantiste sur place, Radio Jido, qui est écoutable en ligne et qui a donné des informations aussi régulièrement là, ces derniers temps sur la situation localement. Et c'est une radio qu'on soutient. Voilà.
Et on va, normalement, c'est en cours, mais il devrait y avoir de la rediff voilà, sur certaines plages de FPP.
Okay. Voilà. Et mais... je voulais juste dire un mot aussi, parce qu'à Solidarité Kanaky, et on connaît bien FPP, et dans toutes nos mobilisations, un camarade qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, de Radio FPP, qu'on connaissait très bien, Lucien. Je le redis, j'ai déjà fait un mot la dernière fois à l'émission des Actus des Luttes. Et Lucien a toujours été là pour la lutte du peuple kanak, a toujours été là avec nous, au pied levé pour retransmettre en niveau communication les rassemblements qu'on faisait. A toujours été là aussi pour la semaine anticoloniale où Solidarité Kanaky est dedans. Et voilà, une pensée à Lucien. Une pensée aussi de la part des camarades kanak qui le connaissent bien. Et Oleti, Oleti ça veut dire merci en langue locale, et Oleti tu seras toujours à nos côtés. Merci beaucoup.
On va passer un petit coup de musique. êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Pour nous écrire, c'est fpp-l'envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et pour nous appeler, c'est le bigot, le 07 53 10 31 95 ou en direct. Mais là, ça sert à rien parce qu'il y a quelqu'un au bout du fil, mais je le donne quand même, c'est le 01 40 05 06 10. Moi, j'ai pas d'écouteur, donc pour une fois, je vais être protégé, je vais pas entendre une petite voix qui nous fatigue déjà. Hello Sylvia.
Hello, hello. Je le fais vachement mieux que lui, hein, quand même.
Ah, il y a personne qui l'entend. Donc, pour l'instant, on n'entend pas Sylvia. Donc, Sylvia, c'est à toi de meubler pour parler un peu de ce qui s'est passé.
Vous m'entendez là ou pas? Allô, allô. Allô, allô.
On est en train de recevoir l'appel.
On a un petit problème technique, mais peut-être qu'on peut lire. Justement, on voulait lire. Le temps que ce petit problème technique soit réglé, on voulait lire des paroles de ce qui se passe en ce moment et qui sont sorties de l'intérieur et qui expliquent du coup ce que les prisonniers vivent à l'intérieur. Parce que du coup, ça fait 3 jours qu'il y a énormément de prisons en France qui sont bloquées. Et du coup, on va commencer par vous lire, ce qui se passe à l'intérieur.
Donc là, voilà, on a quelques personnes qui ont témoigné un peu sur leur situation. Donc je vais commencer par une première lecture. Azir, les Baumettes, ils sont encore en promenade tellement ils ont bloqué. Les gars, ils nous lèvent les douches, donc l'hygiène de vie. Ils nous donnent le pain à 20h. Ils nous privent de nos droits de minimum une heure de promenade par jour. Ils nous privent de nos parloirs famille. Ils nous privent de nos activités, école, stade, muscu, etc., etc. Et ils nous privent de recevoir nos cantines. Quoi les frères, on va donner notre cul à des trous du cul de surveillants qui ont raté l'école de police et nous, on doit subir. Toute l'année, nous lèvent nos téléphones, votre fumette vous parle comme le dernier des moins que rien et on doit encore subir car des surveillants se sont fait tuer à 900 bornes d'ici. Perso, la promenade... Moi, je m'en bats les couilles, mais nos parloirs et les cantines, c'est la seule chose qui nous fait un peu tenir dedans. Le pire, c'est le parloir et ne pas pouvoir prendre nos femmes, nos enfants et nos parents dans les bras à cause de leur manière. Donc voilà, un peu là, un premier témoignage sur le fait que c'est bloqué, qu'il n'y a plus aucune possibilité de voir ses proches en parloir. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des centaines de kilomètres pour aller voir leurs proches qui se sont retrouvés à ne pas pouvoir les voir au final. Globalement au-delà de ça pas de repas par exemple à Moulins on a eu des échos que mercredi il n'y a juste pas eu de gamelle le pas de parloir c'est jusqu'à nouvel ordre donc pas de visibilité aussi pour les personnes pour savoir quand est-ce qu'ils pourront enfin revoir leurs proches, pas de promenade, pas d'activité, pas de taf du coup, enfin voilà, pour toutes les personnes qui ont un travail, c'est pas possible d'y aller. Il y a des poubelles qui s'entassent dans les cellules, notamment à Perpignan et dans d'autres endroits. Pas de livraison des cantines aussi, pas de douche. Enfin voilà, et aussi ce qui est pas mal. Dénoncer c'est le fait qu'il n'y a pas de visibilité quoi, enfin c'est vraiment jusqu'à nouvel ordre et c'est juste hyper stressant de pas savoir quand cette situation va enfin pouvoir s'arrêter. Pareil les UVF sont annulés donc aucune possibilité de voir des familles les familles, pas d'envoi de courrier aussi. Enfin voilà, il y a vraiment juste un blocage total là qui est organisé par les matons, sans visibilité sur ce qui va se passer ensuite. Je sais pas si le problème technique est résolu ou...
Allô, allô.
Ouais, tu nous entends, Sylvia?
Ah, très très bien, je vous entends.
Ouais, ouais.
Vous avez exposé la situation des blocages.
Ouais, on a décrit pas mal ce qui se passait dans chacun des établissements et tout.
Ça, c'est très bien. Alors, il y a certains établissements où il y a des parloirs. C'est pas dans tous les. C'est pas là, ça a repris dans certains établissements. Avant dans un veil, ils ont reçu, par exemple, ils ont reçu un papier en disant que les parloirs étaient maintenus demain et même le lundi 20. Le truc, c'est que par contre, à Vendin en veille, la SPIP a téléphoné à des prisonniers et prisonnières qui avaient des UVF et donc ils ont été annulés. Voilà. En sachant que les gens, ils ont pris des hôtels pour ce soir, pour arriver demain matin tôt, que les gens avaient prévu à dépenser. Ouais, en fait, c'est affreux parce que les gens, ils ont prévu leur déplacement. Et ils ont tout anticipé, ils ont acheté ce qu'il fallait acheter et au dernier moment, on leur coupe l'herbe sur pied tout en sachant que ces personnes ont des enfants en bas âge et donc et ben, il va falloir expliquer à ces enfants qu'ils n'iront pas voir leur papa ou leur maman en UVF. Donc c'est quand même un lourd travail psychologique pour les parents et à faire pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On a tendance à oublier qu'en prison, les humains, c'est pas des machines. Alors, effectivement, quand quelqu'un n'est pas satisfait dans son travail, il le manifeste par un mouvement de grève. Il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais, par exemple, dans les usines, ils détaillent les machines et ils vont manifester. Ben là, pour eux, les machines, c'est les humains. Donc, ils prennent en otage les familles, ils prennent en otage les prisonniers et les prisonnières. Et on va au-delà des conventions des droits de l'homme en éteignant l'eau, parfois l'électricité, en fournissant pas les cantines que les gens ont achetées, en octroyant leurs droits à l'intérieur des détentions et en échauffant les esprits de ces personnes qui restent enfermées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est des conditions inhumaines. Il y a en 2018, il y a eu le même souci lors des mouvements pendant une vingtaine de jours des surveillants. Et comme on en a parlé avec Benoît David la semaine dernière, ils ont été condamnés pour traitement inhumain. Voilà. Donc n'hésitez pas à engager des procédures parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas légal. Et en plus, dès l'instant que ça a été octroyé pour une personne, il y a le comment ça s'appelle, Serge, le truc je sais plus comment ça s'appelle, la jurisprudence, comment on dit,
la jurisprudence, ouais, de la CEDH.
Exactement. Comme ça, les personnes peuvent se servir du procès de Condé-sur-Sarthe pour pouvoir obtenir gain de cause. Et c'est il faut le faire, parce qu'arrive un moment, il faut que ça s'arrête. S'ils veulent manifester et dire leur mécontentement, et ben ils vont sur les Champs-Élysées, puis ils vont marcher comme tout le monde pendant les mouvements de grève. Ils vont manifester comme ça. On se met pas devant des prisons à brûler des palettes, à brûler des pneus, à intoxiquer la population autour. Alors non, mais là, c'est pompon sur la Garonne. Ça veut dire que y a des prisonniers et des prisonnières qui n'ont pas eu leur pain le midi. Et c'est par là, vous savez, où il est parti pour leur barbecue. Voilà. Ça veut dire que pendant que les prisonniers crèvent de faim en cellule, eh ben on prend leur pain et on se fait des opérations sauciflard pinard devant les tôles. Arrivé un moment, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Voilà. Et puis j'avais un petit mot aussi à dire à tous les morts en détention. Moi, je suis en deuil pour Jawad, je suis en deuil pour Alassane, je suis en deuil pour Jimoni, je suis vraiment en deuil pour tous ces morts mystérieuses en détention, voilà. Et puis force aux familles hein, qui vivent autant la pression et l'angoisse que ces prisonniers à l'intérieur actuellement.
Ouais, parce que c'est vraiment, on est quand même vraiment sur un bail de punition collective là qui est fait, voilà, où t'as quand même des matons qui vont dire aux prisonniers d'une tôle qui se situe à 800 km qu'ils sont en guerre contre les prisonniers. On le sait, en fait, ils sont en guerre contre les prisonniers à longueur de temps, tout le temps. Donc en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Sauf que là, en fait, ils ont une occasion et ils s'en saisissent. Et voilà. Et c'est d'autant plus marquant quand on voit en fait quels sont les deux demandes qu'ils font les matons sur l'intersyndicale, où il y a notamment un truc qui est un truc globalement pour leur retraite, quoi, de l'améliorer, qui est un truc qu'ils demandent depuis 3-4 ans. Voilà, alors je vais pas vous expliquer le truc parce que c'est un peu compliqué, mais enfin voilà, globalement ils ont des années supplémentaires de cotisation et qui sont en train de demander là-dessus, quoi. Donc ils utilisent ce genre de situation, et tout, pour remettre sur la table des choses qui est en place depuis, enfin qui négocient depuis longtemps, quoi. Ils utilisent ce genre de trucs et vraiment, enfin voilà, c'est quand même une utilisation de la mort des trucs qui sont quand même assez particulières, quoi.
Et puis comme je voulais dire aussi, les familles n'ont aucun, sont tous un petit peu dans la. Enfin, ils savent pas s'ils ont parloir demain, ils savent pas si c'est reconduit demain. Enfin, ils savent pas tout ça. Et donc, ce que je peux conseiller aux familles qui nous écoutent, c'est d'aller checker sur leur page Facebook, parce qu'ils ont tous une page Facebook. Ils marquent sur la bande de recherche prison et s'il est à Vendin, s'il est à Val-de-Reuil, il tape Val-de-Reuil. En fait, ils marquent, ils sont tellement fiers de dire ah, « Demain, on reconduit le mouvement !» Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent savoir si... parce que dès l'instant qu'ils bloquent, c'est que les parloirs, ils ne sont pas autorisés.
Ouais.
Ouais, en
ils
ne
vont pas
ça...
bloquer la prison pour brûler des pneus et brûler des palettes. C'est vraiment pour faire chier les familles et les empêcher d'aller au parloir. Donc, si le mouvement il est reconduit, ça veut dire malheureusement que parloir, il n'y aura pas, quoi. Donc, allez checker sur leur page Facebook. Je vous préviens, vous allez vomir parce qu'ils sont réellement dégueulasses au vu des commentaires qu'il peut y avoir en dessous, des photos qu'ils mettent. Ou quand on voit des gens en deuil, sans larmes, et qui sont en train de faire des signes rigolos.
De victoire. Il y a des mecs qui font des signes de victoire.
Et franchement, pour des gens en deuil, ils sont vraiment plein de grâce sur leurs photos.
Et ouais, et en plus de ça, au-delà donc des parloirs et des UVF qui sont bloqués, il y a aussi des endroits où il n'y a pas de possibilité de recharger les téléphones. Donc en fait, même de téléphoner, enfin là, il y a des endroits où il y a juste des personnes qui ont aucun moyen de communiquer avec leurs proches, quoi.
Ouais, recharger les cabines.
Ouais.
Non, parce que pour l'extérieur, recharger son téléphone, c'est mettre de l'électricité. Recharger les cabines, c'est donc refoutre du crédit sur ton phone et tout. Voilà. Et l'autre truc aussi qu'il y a dans ce genre de moment, c'est les extractions médicales, quoi. C'est toujours un point essentiel. Enfin voilà, à l'extérieur, on sait à quel point c'est difficile de réussir à obtenir des rendez-vous médicaux à l'extérieur. Imaginez comme c'est 15 fois pire à l'intérieur, et donc on te fait sucrer un rendez-vous que tu as mis 6 mois à avoir et que tu vas pouvoir réavoir que seulement 6 mois après. Voilà. Et donc non, ça, c'est
une extraction en prison, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Une extraction, il faut faire une demande d'autorisation, il faut qu'elle soit acceptée, il faut qu'il y ait une bonne raison, il faut que tu sois au bord de la glissade, il faut que tu sois presque mort pour pouvoir avoir une extraction à l'hôpital, tu vois. Et en fait, il va falloir tout recommencer. Ça veut dire que ces extractions-là, les gens, ils les attendent depuis 6 mois, ils se disent enfin, je vais me faire soigner. Et là, on leur dit, vous partez pas. Vous restez avec votre maladie, vous n'êtes pas soigné et vous recommencez les démarches. Puis pas, on empêche l'extraction et on dit, c'est fini, de tirer quand le mouvement sera terminé. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est là où on voit le comportement des gens qui sont contents. Ils sont contents, les extractions médicales, ils sont retirés. Ah, oh, c'est génial. Mais les gens, ils sont en train de souffrir à l'intérieur, là.
Puis il y a des personnes aussi qui n'ont pas pu aller à leur procès. Enfin, il y a des personnes juste qui étaient... enfin, voilà, qui avaient des procès ou des choses comme ça qui ont été annulés. Pareil, reportés on ne sait pas quand parce que pas de visibilité. Mm-hmm. Donc, ouais, tous les mouvements sont vraiment bloqués, quoi.
Et moi, je voudrais juste revenir deux petites secondes en fait sur les revendications. Là, je parlais du bail là de leur retraite, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a juste, enfin en fait, voilà pour les prendre. Enfin, moi, je vais m'arrêter sur trois en particulier. Voilà, c'est le brouillage des téléphones, voilà, et donc l'extension de ce genre de choses. Donc faut rappeler qu'il y a eu un plan Dupond-Moretti qui a été mis en place, voilà, qui a pour ambition de foutre des brouilleurs de téléphones partout, voilà, donc ce qui empêche les communications avec les familles et tout ça, la communication avec l'extérieur et tout. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, et ça ces gros malins ils l'écrivent pas de manière explicite, voilà, mais ils parlent de réécriture de l'article L225-1, et en fait ça globalement c'est les fouilles à nu systématiques. Donc pour un petit rappel sur les fouilles à nu systématiques, en fait ça a été un combat de longue haleine des prisonniers et tout ça, de faire supprimer ces fouilles à nu systématiques. Elles ont été supprimées, alors je ne connais pas toute l'histoire, mais globalement, c'est à la suite, comme d'hab, ça va jusqu'à l'Europe, et puis on dit c'est un traitement inhumain, et donc on arrête. Sauf que ces fouilles à nu systématiques, elles existent encore, c'est juste qu'elles ne peuvent pas être mises en place pour toute la détention. Donc elles existent en disant, si ils argumentent qu'une personne en particulier est soi-disant dangereuse ou quoi, à partir de là, en fait, ils peuvent faire une fouille à nu systématique. Donc on a eu souvent des lettres de prisonniers qui nous disaient, mais ils continuent à faire des fouilles à nu systématiques. Oui, ils continuent à en avoir le droit. Mais donc là, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est non pas de continuer, comme ils le font actuellement, de faire des fouilles à nu systématiques pour les gens qui considèrent dangereux et tout ça, et voilà, mais vraiment à l'ensemble de la détention. Donc ça veut dire que quand tu sors de Parlu, tu as tout le monde qui passe à la fouille à nu, quoi qu'il en soit, et en tout cas ils en ont le droit, voilà. Et donc ça a été quand même une lutte qui a été très très longue afin d'obtenir ce truc là qui est quand même vraiment pas la panacée, parce que ça continue.
Afin de l'obtenir et surtout qu'elle soit mise en place. Parce qu'en fait, quand elle a été obtenue, cette loi, moi je me rappelle qu'en 2011, quand j'étais incarcérée, la loi, je crois qu'elle est passée en 2009, si j'ai bonne mémoire. La loi était déjà en application. Et en fait, nous, ils fouillaient toutes les filles. Tu vois, il y a un moment, on leur a dit, à un moment, il faut arrêter parce que c'est pas légal. Et ils nous disaient, si vous voulez qu'on vous fouille pas, vous venez avec le papier qui dit que la loi, elle est passée, mais on n'avait pas accès à Internet, on ne pouvait pas la télécharger, ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il dit, sors-moi la loi, et puis si t'as l'article, je te fouille pas. Tu vois comment ils étaient... ça veut dire qu'il a fallu se battre à l'intérieur. Les mecs et les nanas, ils se sont battus à l'intérieur pour pouvoir faire... la mettre en application, tu vois?
Ouais, non, ce serait parmi les énormes retours en arrière qu'il y a et tout ça, ça serait un truc de ouf. L'autre truc aussi, c'est qu'ils veulent continuer, donc je disais tout à l'heure qu'ils voulaient continuer à avoir plus de retraites et tout ça, ils veulent continuer aussi à faire leur 13e mois, voilà, en faisant rentrer des trucs à l'intérieur, parce que ils veulent développer des chiens, ils veulent foutre en fait des chiens renifleurs dans chacune des tôles, voilà. Donc
c'est
j'imagine.
Pas dans leur formation, ça, déjà.
J'imagine que tu penses que c'est des eux-mêmes, ce sont des chiens renifleurs. Attention, Sylvia, c'est de la diffamation.
J'ai juste demandé si c'est pas dans leur formation. Au vu des fouilles à nu qu'ils font là régulièrement, j'ai envie de te dire.
Là, ce qu'ils veulent, c'est recruter des chiens.
Et sentir popo, ils aiment ça, hein.
Ce qu'ils veulent, c'est
Je vais juste poser une question, je suis bête.
Non, mais j'ai bien compris qu'il est important, la naïveté.
Je m'instruis.
Mais donc là, ils veulent rajouter ça. Et donc, ça ferait qu'il y aurait un clébard au Parlu et tout. Et donc, ça leur permettrait d'avoir le monopole sur le touch qui rentre en détention. Et voilà, ce qui est important pour eux. Et enfin,
ces mecs-là, ils veulent être policiers, ils veulent être armés, ils veulent être maître chien, ils veulent être brigade canine, ils veulent être militaires, ils veulent être convoyeurs de fonds, ils veulent être... Ouh là là, c'est un métier. qui s'étend sur pas mal d'autres métiers, disons.
Ouais, bah d'ailleurs, en parlant de ce métier-là, ce qu'il demande aussi, c'est de prolonger d'un an le recrutement des surveillants sans baccalauréat. Donc, on va pas faire de délit de classe, mais
sinon,
en tout cas,
il croit au Père Noël ou pas ?
Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est toujours très très compliqué, voilà. Mais parce que ça fait déjà un an en fait que là, en fait, pour les concours surveillants, il y a plus besoin d'avoir le baccalauréat pour pouvoir candidater.
En même temps, t'as vu, pour une porte ou fermer une porte.
Ça.
Mon fils de 4 ans, il sait le faire. Hein, tu vois, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas non plus sortir de l'ENA. Hein,
Et enfin, le dernier truc, c'est comme ils le disent, c'est limiter les extractions médicales. Voilà, et donc de faire que de la télémédecine, ce genre de truc. Voilà, et donc ça là-dessus, on sait très très bien pourquoi ils veulent le faire, et ça pose énormément de questions sur le fait d'avoir juste le secret médical, puisque bien sûr qu'il y aura un maton qui sera à l'intérieur de la salle ou ce genre de truc. Enfin, voilà quoi. Donc c'est comme d'hab en fait, voilà, et je parle pas le nombre de d'armes qu'ils veulent en plus et tout ça, voilà, parce que c'est vraiment du délire, quoi.
Sur les réseaux sociaux, il faut savoir que pendant les extractions, il y en a un qui est armé ou deux qui est armé, je sais pas, ils sont peut-être pas tous armés, mais en tout cas, il y a quelques-uns il y a forcément une personne qui a un 9 mm. Et donc, ils disaient, oui, mais ils sont pas armés, mais un 9 mm, c'est une arme. Non? Et ils disaient, oui, mais on veut plus, il faut des armes plus, il nous faut des armes de guerre. Non, mais je te dis, c'est pour ça que je te dis, ils veulent être militaires, ils veulent des armes de guerre. Après, ils demandent des fourgons blindés ou des voitures banalisées, mais des fourgons blindés, tu veux un tank? Qu'est-ce que tu veux? Après le statut passé en catégorie B, tu veux le statut militaire? Je sais pas, je comprends pas, arrivé à un moment. Si vraiment ce métier vous dépasse, quand on travaille dans une prison, le risque, c'est qu'il y ait des évasions. Quand on travaille dans une banque, le risque, c'est qu'il y ait des braquages. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le risque. C'est comme ça. C'est le risque du métier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, quand tu passes le concours, tu le sais que tu prends ce risque. Quand tu es policier, tu le sais, le risque que tu prends quand tu rentres dans ce métier. Tu vois, quand t'es avocat,
c'est pour ça qu'on les invite tous à démissionner.
Ouais, exactement. Tu comprends, dans chaque métier, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Et du coup, là, c'est vraiment le moment, c'est l'occasion pour laquelle ils se mobilisent tous pour mettre toutes ces revendications-là. Et qui c'est qui d'eux? C'est toutes les personnes à l'intérieur qui, du coup, n'ont rien demandé, n'ont rien fait et se retrouvent être privées de tout pour ces revendications-là, quoi. Alors que, c'est pas de leur ressort, c'est pas leur faute.
Non, puis en plus, ce qui me fait rire, tu sais, quand vraiment tu veux la paix dans ton travail, tu vas travailler à l'église, hein, tu vois. Mets-toi prête. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ouais, il y a des voyous. Mais t'es en prison, mon pote. Tu veux qu'il y ait quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait en prison? C'est la misère sociale. Les gens, ils ont faim. Il faut qu'ils mangent. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Sans ces voyous, tu n'aurais pas de travail. Je comprends pas. C'est quoi ces revendications bidons, là?
Ça n'a
rien à voir avec eux, en plus. Tu vois ce que je veux dire? Des extractions pour les maladies, le mec il était pas là-bas pour un truc, il n'était pas extradé pour un truc médical, ils sont en train de faire crever des gens en détention.
Oui, mais
avec
c'est...
Avec leur connerie de revendications là.
C'est bien tout le truc, c'est qu'ils remettent à la page toutes leurs revendications qu'ils ont déjà depuis un petit moment. Et de toute façon, on le connaît de manière générale, leurs revendications, c'est d'enfermer le plus longtemps possible tout le monde à l'intérieur des cellules et de faire en sorte qu'ils aient moins de mouvements à faire à l'intérieur de la détention ou vers l'extérieur. Voilà. Et d'avoir le monopole du touch et des portables à faire rentrer à l'intérieur.
Ouais, complètement.
Donc on les connaît. Enfin, je veux dire, en fait, il y a, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Mais c'est juste que là, ils ont une opportunité de le faire. Le truc, c'est qu'ils font ça en en enfermant, enfin en faisant des vivre, enfin déjà de manière générale en fait ce que subissent les prisonniers et les prisonnières, c'est juste insupportable. Et là, c'est juste affreux. Et il y a personne qui s'indigne de ce que sont en train de vivre l'ensemble des prisonniers et prisonnières de France. Et ça, c'est un truc qui est quand même vraiment complètement ouf, parce qu'en fait, on est dans une punition collective. Et on sait qu'ils ont l'habitude de faire des punitions collectives, en fait. Voilà, je veux dire, en fait, ils le font à chaque fois. En fait, quand il y a un problème dans une aile, c'est tout le monde qui prend dans l'aile. Enfin, voilà, voilà, ça fait partie de leur fonctionnement. On le sait, et là, ils l'appliquent à grande échelle, et là, c'est sur l'ensemble des tôles. Et c'est un truc de ouf, parce qu'en fait, ils sont en train d'appliquer ce qui s'est passé pendant le Covid. Et il y a tout, enfin, au moins au moment où il y a eu le Covid, il y avait quand même 2-3 personnes qui disaient quand même là, ce qui est en train de se passer, c'est chaud pour eux, quoi. Et ben là, personne n'en a rien à péter. Et tu vois tous les politiques et tout ça qui leur apportent tout le grand soutien et tout ça. Et il y a aucune parole pour les gens à l'intérieur qui sont en train de subir ça et qui n'y sont pour rien. Il y a 3 avocats et 2 trucs, mais même la contrôleuse générale, elle disait que c'était dur pour les surveillants. Voilà.
Ouais, c'est ça qui est dégueulasse, en fait. C'est que BFM, tout ça, là, ils vont tous, c'est vendu, là, ils vont tous devant toutes les prisons de France pour filmer les surveillants. Limite, ils font des chaînes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, s'ils pouvaient ouvrir c'est un truc de ouf. Et après, par contre, genre, c'est les prisonniers qui sont obligés de prendre des risques pour faire sortir sur les réseaux ce qui se passe, pour faire des lives, pour en fait parler, raconter ce qui se passe, parce qu'en fait, personne n'en parle, quoi. Et t'as littéralement, je sais pas combien il y a de milliers de personnes, enfin, vous allez connaître le chiffre, mais combien il y a de personnes en prison, et juste, il y a des personnes qui peuvent plus bouger de leur cellule, qui peuvent pas avoir accès à la gamelle, mais en fait, c'est tranquille, quoi. On est objectif sur les matons, quoi.
Et qui peuvent pas avoir accès à leur cantine, ce qui veut dire que par exemple, quelqu'un qui est fumeur, il a besoin de fumer, ça le déstresse en détention. Et tu fumes 2 fois plus en cellule, tu vois. Et donc, on leur apporte pas leur cantine de cigarettes. Les mecs qui sont en cellule, ils ont pas leur... Ils sont en crise d'hystérie, là, dans leur tête. Ça va pas du tout. Et je voulais dire aussi qu'à l'époque, j'irai pas au fond de mes pensées, mais j'irai au moins le début. À l'époque, il y avait, pendant les extractions, les gens étaient pas armés et qu'il y avait des évasions, et il y en avait très peu, des évasions. Il y avait des commandos qui y allaient, mais c'était pas des commandos qui étaient lourdement armés. Ils savaient que les gens à l'intérieur, ils étaient pas équipés, tu vois. Donc c'était, ils allaient libérer leurs potes et ils se barraient. Voilà. Et maintenant, avec leurs revendications, ils ont demandé des armes. Malheureusement, c'est triste, mais quand tu sais que il va se passer un truc comme ça, les gens ils sont armés à l'intérieur, malheureusement. Forcément, c'est armé des deux côtés, tu vois. Ouais. Je parle pas de, je cautionne pas si c'est passé. Voilà, c'est pas mon problème. Mais par rapport à ça, voilà, c'est... Les mecs, ils y vont armés parce qu'ils risquent 20 ans, 30 ans, 40 ans pour aller. Enfin, je sais pas, tu vois. Et le fait qu'avant il y avait pas d'armes. C'était moins risqué pour ces surveillants, en vrai.
Et je pense qu'il y a un truc là-dessus qui est essentiel à comprendre, c'est qu'en fait, le besoin de liberté, il sera... Enfin, je pense que c'est un peu... je veux pas faire un parallèle complètement débile, mais je vais quand même le faire. Voilà. Mais en fait, il y a des trucs qui font que ça te dépasse, en fait. Enfin, voilà. Et que de toute façon, le besoin de liberté, il sera toujours au-dessus. Et en fait, quand tu lis des témoignages d'évasion et tout ça, en fait, des gens qui sont prêts parce qu'ils sont frères, parce qu'ils sont amis et tout ça, d'aller risquer 20 ans pour évader un de leurs potes, en fait, et bah ça, tu pourras jamais aller contre. C'est plus fort que tout. Et donc, en fait, les risques que tu vas prendre, tu les as acceptés. Enfin, ce truc-là, il est au-dessus de tout. Voilà, parce que pour ce cas-là, on n'en sait rien et tout ça, mais de manière générale, les récits d'évasion, c'est de la solidarité, et ça, en fait, la solidarité, elle adviendra toujours, quoi. Et voilà, et c'est pas pour dire que c'est, comme tu dis, cautionner ce qui s'est passé. C'est juste de le constater, quoi. Et voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que en fait, les punitions collectives, c'est juste pas possible. En fait, voilà, ça commence un peu à débloquer dans certaines tôles et tout ça. Voilà. Et aussi dernier truc, en fait, qu'on n'a pas rappelé, c'est qu'en fait, les matons, il y a 30-40 ans, je me souviens plus, en fait, ils ont accepté contre une augmentation de salaire l'interdiction du droit de grève. Voilà. Donc, si ce sont des débiles syndicaux, c'est pas notre problème. Voilà. Mais donc, normalement, ils ne devraient pas avoir le droit de faire grève. Voilà. Et pour autant, on laisse bloquer et tout ça. Et il y a aucun problème à ce niveau-là, quoi.
Non, mais faites la grève, mais laissez sortir les gens, ouvrez les portes.
Et puis, par exemple, faites la grève. Et puis, en fait. S'il y a des nouvelles personnes qui doivent arriver, eh ben vous les laissez partir parce qu'il y a personne qui peut rentrer à l'intérieur de la détention. Quoi. Donc voilà. Enfin, nous on a plein de solutions à vous proposer pour faire la grève correctement.
Ouais, comme le disait un prisonnier, en fait, pourquoi ils vont bloquer les prisons qu'ils aillent au ministère de la Justice bloquer leur employeur comme tout le monde, quoi. Là ils bloquent des gens, c'est pas leur employeur en fait, tu vois. Les prisonniers vont pas pouvoir accéder à leurs revendications, c'est pas eux qui vont distribuer les fusils et décider qu'il y aura plus d'extraction judiciaire, quoi.
Et puis ces prisonniers qui travaillent à l'intérieur, qui n'ont pas de mandat et qui ça permet de pouvoir continuer, là les jours de travail qu'ils ont perdus, ils pourront pas le rattraper. Ils n'auront pas de mandat et ils n'auront plus de thunes pour pouvoir continuer le mois prochain. Donc tu vois, ça va engendrer tellement de trucs sur plusieurs mois. Et en tout cas, quand on voit les vidéos sur les réseaux des mecs à l'intérieur, ils sont bouillants, ils en peuvent plus. Alors à Val-de-Reuil, par exemple, pour éviter le surmenage des prisonniers et qu'il y ait des blocages, ils ont descendu 5 prisonniers, 5 par 5, en leur donnant une promenade de 30 minutes dans leur journée. Alors ils ont installé ça sur le matin et l'après-midi. Voilà, mais... En fait, ils les ont achetés comme ça,
Mais Sylvia, on arrive à la fin de l'émission.
Arrête,
sérieux. Si.
et on a un événement à raconter. Et tu restes avec nous pour les coucous?
Non, pas du tout.
t'as pas intérêt de raccrocher. Donc on passe. Il y a un événement à Lyon.
Oui, il y a un événement à Villeurbanne, c'est un week-end en la mémoire de Idir. Donc le vendredi à 19h, donc le 24 mai, il y a une cantine et une projection d'un film surprise. Le samedi, il y a des ateliers banderoles, slogans, et ensuite il y a la prise de parole à 14h, samedi 25 mai, de détenus et un temps de discussion. Ensuite, il y a des prises de parole de familles de victimes, et il y a une conférence de presse de Najette avec son avocat, donc pour dire où en est le dossier sur la mort d'Idir. À 20h, il y a une soirée, et ensuite le dimanche, le 26 mai, il y a une manif à 14h qui commencera place Bellecour.
Et tout ce que tu as raconté avant le samedi, là, ça a lieu au squat Lille Égalité.
À Villeurbanne.
Et le 26 mai, il y a aussi une manifestation à Rennes dans le cadre du mois anticarcéral. Donc c'est à 11h le 26 mai, au Parvis Gare Sud, devant la prison des femmes. Et par ailleurs, il y a d'autres événements qui sont organisés dans le cadre de cette semaine. Donc là, je ne vais pas prendre le temps de tous les dire, mais pour les gens qui sont dehors, vous pouvez les retrouver sur expansif.info pour avoir l'intégralité du programme.
T'as des petits coucous, Sylvia?
Force et courage à tous les prisonniers et prisonnières de France, d'ici ou d'ailleurs. Et puis, surtout, rentrez pas dans leur délire. Soyez forts. C'est pas évident, je sais, mais faut pas les laisser gagner, ces gens-là. Voilà, donc force à vous, les gens.
Rediffusion mercredi matin, 8h30. Force, courage et détermination et...
Il n'y a pas d'arrangement. Salutez.
Ça va?
Ça va et toi, petit, tu vas où?
Ça va, je veux roser, tu peux me jeter s'il te plaît?
Vas-y, monte vite, je te ramène.
Je fais toujours preuve de bonté, je vais rallumer la patte, je vais me boire un bon.
Tu le fils à Karim, les Rahman?
Ouais, pourquoi tu le connaissais?
Et ouais, j'étais votre voisine avant, Rosie. Ta mère, ça va?
Ça va, Hamdoulaye, maintenant elle est en dame à la maison.
C'est bien, prends soin d'elle. Tu passeras le bonjour de ma part, tu diras ah, Mia. C'est où, c'est là?
Ouais, c'est là.
Vas-y,
mon
ça rentre bien et prends soin
de ta mère. Allez, c'est bon, merci, je te passe
ton
salem. Allez, bonne soirée,
papa. Petit, on t'a pas dit que la vie c'est pas toujours joli. Que des jeunes meurent de Marseille jusqu'à Napoli. Apeurés par l'uniforme de la police. Parce qu'on n'aura pas notre place dans le pays, même si on est poli. C'est la guerre dans nos têtes, guerre dans nos checks. Les minots sont devenus des guetteurs à temps plein. Guetteurs à temps plein, même sous la tempête. Élevé par le chant des guitares et de la compète. Tu rêves de gala, ils s'en foutent des nanas. Et si je fume tous les jours, pour moi c'est juste un calmeur. J'arrive pas à trop de mal à moi. Ils m'ont rendu le cœur noir. Ils me disent j'ai la mentale. Je suis petit mais je perds pas la vie. C'est ça, tu prends des claques. Des fois tu t'en fous moins que 4. Des on dit une info, tu peux finir dans le 4-4. Je comprends pas, des fois je suis calme et des fois je fais des dégâts. Je veux des sous, pas pour moi, juste pour que ma maman joue gâte. Peu à peu, gros, j'essaierai moi trop peiné. Tu le sens dans mes mots. J'ai des frères, des frères qui rêveraient juste d'être au bord de l'eau. Le quartier c'est l'enfer, tu te mélanges, ils veulent te faire. J'ai compris leur manège, maintenant pour rien ça sort le fer. De zigzag, trop souvent mal entouré, mais personne ne dicte. Petit frère gamberge le soir à la vue de les stacks. Un peu parano quand tu vois que des gens le piste. Petit rêve de gala, il s'en fout des nanas. Petit fait des sous pour remplir le frigo à mama. Il grandit sans papa, il a mal, tu le verras pas. Petit fait tomber de la neige aux endroits où il y en a pas. Quand je vois la douleur dans ses yeux, petit me dit j'ai beaucoup d'amis dans les yeux. Il me dit ça fait partie de la vie, les décès. Mais depuis je me sens seule ici, ils m'ont tous déçu. Déçu par la vida, déçu le cœur vidé. Des yeux rouges everyday, petit frère s'en fume chaque jour pour lui c'est vital.
T'es en vermenté la pente d'avoir la maison sur la côte. Et si tu le veux dans ta vie fais bien gaffe à ce que tu racontes. Mon cœur dans tes mains, tu l'as jeté à côté. Ne rentre pas dans mon cerveau, tu sais que c'est toi qui a fauté.
Petit rêve de gala, il s'en fout des nanas. Petit fait des sous pour remplir le frigo à mama. Il grandit sans papa, et la main tu le verras pas. Petit fait tomber de la neige aux endroits. Y'a même la rota qui m'a validé. On mérite plus que la facem d'alité.